Salut à toi, je suis extrêmement heureux de te retrouver pour un nouveau numéro du Let's Try Podcast, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. J'espère que tu vas bien. Et un épisode, alors là il est sacrément spécial celui-là, puisque comme assez rarement, eh bien, je propose un épisode avec un invité international sous deux formats. Cet épisode tu pourras le retrouver si tu parles anglais, en format version originale, également diffusée en même temps que cet épisode en version française. Et en VO tu pourras également profiter de mon accent provençal, anglo-provençal qui, je suis sûr, te ravira pleinement. Cet épisode a été réalisé en coordination, en co-construction avec un soutien participatif, ami de longue date du LTP, ami tout court, Ermano Di Micheli, que je remercie énormément pour tout le travail qu'il a effectué pour effectuer ce doublage pour les non-anglophones. J'espère que vous apprécierez le travail qui a été effectué. En tout cas, sachez que ça a demandé énormément de temps à Ermano pour faire ce doublage-là. Et donc, puisque c'est le sujet de l'épisode, je reçois dans cet épisode Peter Engdahl, un ultra-trailer suédois qui est passé par le ski de fond à un haut niveau de compétition, puisqu'il a été international à la fin des années 2010 et au début des années 2020. Et il nous expliquera son histoire de vie, d'où il vient, comment il est passé de la pratique du ski de fond à très haut niveau vers le trail running et plus particulièrement le sky running. Qu'est-ce qui l'a poussé également à augmenter les distances. Et puis évidemment, nous reviendrons sur quelques anecdotes et notamment la fameuse entorse de cheville ou encore le sub 10 heures sur la CCC 2022 et ses futurs projets pour l'année 2024. Allez, après cette longue introduction, je remercie encore une nouvelle fois mon Ermano Di Micheli et je vous laisse profiter de cette conversation avec Peter Engdahl. Bonne écoute. Hello Peter. Salut Peter, c'est un vrai plaisir de t'avoir sur le podcast. Comment vas-tu?
Hello, nice to thank you for having me. Great pleasure to talk to you.
Merci, c'est un vrai plaisir de parler avec toi. Je vais bien, merci. Je suis en Norvège et c'est l'hiver à plein régime ici. Je profite un peu du ski et oui, il fait encore très très sombre ici. Nous n'avons pas vu le soleil dans la vallée depuis environ 2 mois ou quelque chose comme ça et il nous reste encore 1 mois à attendre. Oui, tu sais, la vallée est si raide que le soleil ne touche pas notre maison pendant 3 mois, je pense. Nous devons monter à ski pour pouvoir voir le soleil.
Ah ok, c'est pour ça que tu skis donc.
Yes, exactly. Yes.
Thank you for being merci d'être là. Déjà, la première des choses, je voudrais remercier un ami en commun qui nous a mis en relation, qui est Hugo Deck. Un énorme coucou et un énorme remerciement à Hugo. Quelle place a Hugo dans ta vie et quelle relation as-tu avec lui?
Oui, Hugo Deck est un drôle de type, plein d'énergie. Il a le rire le plus drôle que je connaisse.
Unbelievable.
Il remplit toute la pièce de joie et de bonheur partout où il passe et où il travaille. Il a un grand charisme. Donc oui, il a rejoint l'équipe l'été dernier, en 2022. Je l'ai rencontré la première fois à Chamonix et nous avons fait de très belles randonnées ensemble. Et j'ai été extrêmement impressionné par son parcours jusqu'au trail running et comment il est passé de joueur de basket fumeur à devenir l'un des meilleurs ultra trailers du monde et un talent énorme. Voilà, c'est un super type, vraiment un type génial et je suis tellement heureux de l'avoir dans l'équipe et fier de l'avoir comme coéquipier.
Merci encore Hugo pour cette mise en relation, vraiment, je tiens à dire que tu es vraiment une belle personne. Et il m'a dit d'ailleurs à ce sujet que ton prénom ne se prononçait pas Peter, mais bien Peter. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Yes, well, my name is Peter, not Peter.
Oui, mon nom c'est bien Peter et pas Peter. Donc, je suppose que c'est un truc français. Peut-être qu'il n'y a pas tant de Peter en France, et peut-être uniquement que des Peter. C'est peut-être plus courant, je ne sais pas. Mais ça a été une lutte depuis que j'ai commencé à concourir en France. Je pense depuis que je suis athlète Salomon, peut-être même auparavant. En fait, tout le monde chez Salomon m'appelait Peter, et dans toutes les courses, j'ai essayé de corriger chaque speaker. Et mon nom est bien Peter.
Donc, je te promets que dans tout l'épisode, je ne t'appellerai uniquement que Peter et non Peter. C'est OK pour toi ? Peter, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Qui est Peter Engdahl ?
Eh bien, je m'appelle Peter Engdahl, je suis suédois. Mais je vis en Norvège. Je suis étudiant en design industriel à l'Université norvégienne de sciences et de technologies. Et je suis aussi coureur de trail professionnel pour le team Adidas Terrex. Je vis à Romsdalen, sur la côte ouest de la Norvège, où je m'entraîne dans les montagnes. Je skie et je cours. J'aime prendre des photos, concevoir des choses de design et aussi jouer de la guitare. Voilà, je pense que c'est moi.
Un point commun.
J'ai une petite amie qui vit ici à Romsdalen aussi, et elle est également coureuse de trail. Ma famille vit toujours en Suède, mais mon frère habite à Trondheim, et moi je passe la plupart de mes étés à Chamonix depuis 3 ans pour courir dans les montagnes. J'ai une excellente relation, pour ainsi dire, avec Chamonix et les Alpes françaises.
C'est un magnifique endroit où vivre.
C'est sûr, la combinaison de Romsdalen et de Chamonix est juste excellente.
Merci pour la présentation, Peter. Dans mon podcast, j'aime bien que les invités se présentent et expliquent leur enfance. Où as-tu grandi et dans quel type d'environnement ?
Alors, j'ai grandi dans la ville d'Asarna, en Suède. Mes parents étaient tous les deux orienteurs et skieurs nordiques. Donc, le sport a joué un grand rôle dans mon enfance. J'ai essayé l'orientation, mais comme je suis daltonien, c'était vraiment pas le sport pour moi.
Daltonien, comme on dit en français ? On dit daltonien.
Je suis très mauvais avec les couleurs. Même si je suis designer, je ne suis pas très très bon pour choisir les couleurs. Mais bon, l'orientation, ce n'était pas fait pour moi. J'ai pratiqué à peu près tous les autres sports auxquels vous pouvez penser, du ping-pong au basketball à l'athlétisme. Le hockey sur glace, la course, le ski et tout le reste. Mais ça a toujours été le ski nordique que j'ai voulu pratiquer. C'était ma grande passion. Donc oui, ma famille et moi, j'ai 2 frères plus jeunes. Nous avons passé beaucoup de temps à skier dans les montagnes. C'est là que nous passions tous nos week-ends et nos vacances. Donc le sport a vraiment été une grande partie de mon enfance, ça, c'est sûr.
Donc beaucoup de sport dans l'enfance, et sur ton site internet, tu dis que tu n'es pas né pour devenir un skieur de fond. Est-ce que tu peux nous expliquer cela ?
Je pense que j'ai jamais été très talentueux dans quoi que ce soit. C'était plutôt beaucoup de travail acharné. J'étais toujours très loin dans les classements en grandissant, pour plusieurs raisons, je pense. J'étais un enfant très petit et je suis toujours pas très grand. Je mesure environ 1m69 ou quelque chose comme ça. J'ai toujours été très menu en grandissant, donc assez en retard. Mais j'aimais m'entraîner et travailler dur. Et je suppose que c'était là, finalement, mon talent. Mais aussi, voilà, c'est là où je voulais en venir. J'étais pas vraiment élevé. J'ai pas grandi pour être un coureur non plus. J'adore courir, mais le ski nordique a toujours été ma passion. Et je me voyais avant tout comme un skieur plutôt qu'un coureur. Mais bon, ensuite, les choses ont changé, je pense.
Et quand est-ce que tu réalises que tu peux pratiquer ce sport à un si haut niveau de compétitivité?
C'était peut-être à l'âge de 13 ou 14 ans. Même si j'étais assez petit, j'ai eu une très bonne progression à cette époque. Où je suis passé d'être très à la traîne dans les classements à être soudainement parmi les meilleurs du pays en ski. Cela était uniquement dû au fait que j'étais vraiment très concentré et que je m'entraînais très très dur. Et j'avais un soutien énorme de mes parents qui m'emmenaient partout pour pratiquer et skier. Et aussi avec l'équipe de ski, elle m'a donné beaucoup de confiance en moi et un bon environnement pour m'améliorer. Donc quand j'avais 13 ou 14 ans, j'ai vu une grande progression et j'ai senti que je voulais voir jusqu'où je pouvais aller. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai déménagé de chez moi à Vole, dans l'un des plus grands villages de ski en Suède, où j'ai commencé le lycée de ski. Et là, c'était principalement concentré sur le ski. Et j'y étais tout le temps. J'ai eu une grande progression dans ma carrière et j'aimais, je n'aimais que le sport d'endurance et je voulais qu'une seule chose, c'était poursuivre dans cette voie. Puis au fil des années, les opportunités ont toujours un peu changé, mais je pense que vraiment c'était depuis cette année-là, quand j'avais 13 ans. Ma confiance en moi n'a jamais vraiment disparu. Je savais vraiment ce que je voulais faire et ce que je voulais continuer, et c'était de devenir un très bon athlète d'endurance. Au début, c'était le ski, et puis les années suivantes, quand j'ai découvert le trail running et le sport de manière générale, et réalisé combien cela m'apportait et combien de joie je trouvais, eh bien, cela a lentement été de la transition du ski nordique au trail running.
Ouais, on va en parler juste après plus précisément. Et tu dis, tu parles de ski. Est-ce que tu peux préciser si c'est ski de fond, ski nordique, etc. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est?
Oui, ski de fond.
Est-ce que tu peux nous donner des moments clés qui ont marqué ta carrière dans le ski de fond?
Yes.
Oui, mon plus gros accomplissement, je suppose, a été ma première Coupe du Monde à Holmenkollen à Oslo.
En 2018.
Exactement là où j'ai pu représenter la Suède en Coupe du Monde pour la première fois. C'était vraiment un grand moment pour moi de porter ce maillot de l'équipe nationale. C'était très important pour moi. Et après ça, qui est également une très bonne course, je pense avoir fini en 23e position. Après, j'ai intégré l'équipe nationale l'année suivante et j'ai participé à d'autres Coupes du Monde en remportant quelques courses à Falun et à Ulricehamn. Et en terminant 4e au championnat national. J'ai également représenté l'équipe Santander, c'était son nom à l'époque, maintenant l'équipe s'appelle Red Charge, l'une des équipes professionnelles de ski classique de Norvège. Les représenter a aussi été un grand moment pour moi parce que cela m'a permis de m'entraîner avec certains des meilleurs athlètes du monde dans le domaine skiable et c'était avant que je rejoigne l'équipe nationale. C'était donc définitivement l'un des plus grands moments, l'un des moments forts, une année phare pour moi, c'était 2018-2019. Et puis bien sûr, il y a eu la pandémie qui est arrivée et ça a été un peu difficile. J'ai eu d'autres blessures, d'autres problèmes de santé, mais aussi d'autres moments forts, je suppose. Ce qui inclut aussi mon déménagement à Trondheim, en Norvège, où j'ai pu beaucoup m'entraîner avec Didi Tønseth, Stillorgan et Musgrave, où j'ai également ressenti une très bonne progression et j'ai obtenu de très bons résultats pendant l'hiver. Mais je pense que j'ai réalisé que la course était alors la chose qui me passionnait le plus. Bien sûr, je suis content de ma carrière de skieur. J'ai vécu beaucoup de choses et obtenu beaucoup de résultats dont je suis vraiment très fier. Je n'exclus pas de réessayer le ski nordique. D'ailleurs, je vais participer au marathon ski de Langadine en mars à Saint-Moritz. Ce sera vraiment amusant de voir combien j'ai perdu pendant cette période et dans quelle mesure mes triceps se sont affaiblis pendant ces moments dédiés uniquement à la course à pied.
Oui, parce que j'ai vu sur le site de la FIS que tu n'as pas de résultat depuis avril 2022. Tu n'as pas fait de compétition depuis ce moment-là ?
Non, je n'ai pas concouru depuis longtemps. Donc l'hiver dernier a été mon premier hiver depuis environ que j'ai 6 ans où je n'ai pas participé à des compétitions de ski nordique. Et c'était assez étrange en fait, mais aussi plutôt agréable d'une certaine manière. J'ai pas vraiment ressenti le manque pour une raison que j'ignore et actuellement je suis pas vraiment le ski nordique autant qu'avant, comme la Coupe du Monde ou les courses. Je suis un tout petit peu parce que j'ai beaucoup d'amis dans ce sport et je veux bien sûr qu'ils réussissent et je les encourage toujours. Mais non, mes propres journées sont occupées par l'entraînement, par les cours et d'autres choses encore, donc je ne suis pas beaucoup les compétitions. Mais j'aime toujours skier et faire beaucoup de ski nordique. Je continue à en faire beaucoup comme entraînement. Ça fait toujours partie de ma vie.
Et je voudrais comprendre quelle est la place du ski nordique en Suède. Est-ce que c'est une institution? Combien de personnes le pratiquent dans ton pays?
En Suède, le ski n'est pas aussi populaire qu'on pourrait le penser, car dans les grandes villes comme Stockholm, il n'y a pas tant de neige que ça. On skie davantage dans les villes plus au nord comme Östersund, Umeå, Falun, où il y a quelques skieurs qui pratiquent régulièrement. Puis bien sûr, il y a le Vasaloppet dans la deuxième semaine de mars, qui est la plus grande course de ski du monde. C'est une sorte de rite de passage en Suède. Quelque chose que vous devez faire au moins une fois dans votre vie. Mais le ski en tant que sport n'est pas aussi important qu'en Norvège, où je vis actuellement. Ici, c'est incroyable. Quand vous venez ici, à Oslo, une ville d'environ 1 million d'habitants, vous voyez des gens dans le métro se baladant avec des skis en plein centre de la ville pour aller skier. Ça fait partie de leur culture depuis l'enfance. Dans ma classe, peu importe d'où on vient, en Norvège, du nord, du centre, d'Oslo ou d'un endroit complètement perdu, tout le monde a grandi en faisant du ski à un moment donné et a une certaine relation avec le ski. Et au niveau compétitif, le ski nordique est beaucoup plus courant comme sport ici. Je me souviens, par exemple, à Oslo, il y a un club qui compte Alors, 13 000 enfants entre 8 et 13 ans.
Kids between the age of 8 and 13 in their ski club.
Donc, c'est pas étonnant qu'ils dominent le sport. C'est juste incroyable.
It's just insane. And when you go out,
lorsque vous allez en forêt ou sur les pistes, vous voyez même les tout petits de la maternelle sortir avec des skis. Ici, le ski est presque une religion. C'est super important.
Pour en revenir à ta compétition en Coupe du Monde en 2018 à Oslo, ça fait quoi d'avoir le maillot de son équipe nationale sur ses épaules?
C'était incroyable.
C'était la première fois?
Oui, oui, c'était la première fois que j'enfilais le maillot de course suédois et que je représentais mon pays. Et le faire aussi à Oslo et dans le 50 km à Holmenkollen, c'était énorme pour moi parce que c'était la course qui était en haut de ma liste, la plus prestigieuse Coupe du Monde de l'année, là où il y a le plus de spectateurs et elle a une histoire. Et juste comme ça. Et pour moi, je suis meilleur sur les longues distances. Donc, c'était une course où je sentais que j'avais de bonnes chances de bien courir. Courir à Holmenkollen, à Oslo, devant 100 000 personnes, tout autour du parcours, c'était juste fou. J'ai encore des frissons quand j'en parle. Et après la course, mon maillot sentait la bière et le barbecue, parce qu'il faisait des barbecues partout et aspergeait de bière, et il y avait une grande fête tout autour du parcours et une ambiance vraiment cool.
Spraying beer all over the place, and there's a big party around the course, and
et bien sûr, ça a aidé aussi à ce que je fasse l'une de mes meilleures courses de ma carrière. Évidemment, c'était énorme.
It was really huge.
Pour parler un peu de cette transition du ski nordique au trail running, on voit sur ton site, qui est d'ailleurs très bien fait, tu dis « Je ne me suis jamais considéré comme un coureur à pied, je courais l'été pour préparer ma saison de ski l'hiver ». Tu peux dire que tout a commencé comme ça, Peter ?
Oui, comme je l'ai dit, je faisais de la course, comme du course country et de l'athlétisme quand j'étais jeune, mais c'était toujours juste pour l'entraînement et la saison hivernale. En tant que skieur nordique, du moins pour moi, je trouvais que courir était un bon entraînement très efficace comparé au ski à roulettes. Je faisais bien sûr beaucoup de ski à roulettes, mais pas autant que les autres dans l'équipe nationale. Mon entraîneur, qui est un peu à l'ancienne, était de ceux qui encouragent la course pour construire l'endurance et développer un bon moteur. Pour être bon en montée, car le mouvement de la course et du ski classique est assez similaire. Mais pas musculaire.
L'effet de training est vraiment
et l'effet de l'entraînement est vraiment génial en courant comparé au ski à roulette. Donc c'était une grande partie de mon entraînement pour l'hiver. Puis quand j'ai essayé certaines courses de trail, évidemment, je courais assez vite parce que je le faisais beaucoup, mais c'était jamais dans le but de devenir un bon coureur. C'est ce que je veux dire quand je dis que je me suis jamais vraiment considéré comme un coureur. C'était une excellente façon de m'entraîner, une partie importante de l'entraînement. Je dirais que pendant une année, 60% de mon entraînement était consacré à la course et le reste au ski. Et ça variait selon les périodes dans la saison. Je courais plus pendant l'été et je skiais plus pendant l'hiver. Ça dépendait du moment de la saison, mais ça pouvait être 60-40, 65-55. Voilà, ça dépendait un petit peu des moments. Puis, quand je suis devenu un skieur senior, vers 18-19-20 ans,
from junior becoming senior, I had like a
J'ai atteint un carrefour. Où je me suis demandé comment je pouvais m'améliorer, par exemple sur les longues distances. J'ai commencé à regarder l'entraînement de grands athlètes d'endurance dans d'autres sports pour voir comment ils s'y prenaient et j'ai découvert un certain Kilian Jornet.
Non, je ne connais pas.
qui était plutôt bon pour courir en montée. Donc je me suis dit que je devrais explorer cela et voir de quoi il s'agissait. À l'époque, je vivais à Are, qui a certaines des montagnes les plus hautes de Suède. C'est pas génial, mais c'est vraiment sympa pour la course en montagne. J'ai toujours aimé courir dans les montagnes et dans la nature, et donc j'ai commencé à faire ça davantage pour devenir un meilleur athlète en montée et pour m'améliorer sur les longues distances. Et pour ceux qui ne savent pas, je suis plutôt petit, hein, comme je l'ai dit, je mesure environ 1m69, donc je me suis rendu compte que je ne battrais jamais Peter Northug dans un sprint final, ou que je ne serais pas l'un des skieurs les plus explosifs. Alors je me suis dit que je devais gagner la course d'une autre manière. J'ai donc commencé à devenir le meilleur skieur en montée du monde. J'ai commencé à étudier d'autres coureurs de trail et le sport et à courir beaucoup plus dans les montagnes moi-même. C'était vraiment intéressant de voir que quand j'ai commencé à courir davantage en montagne, ma performance en ski s'est améliorée et je suis devenu de mieux en mieux. C'est vraiment intéressant et à partir de cette année-là, c'est devenu une plus grande partie de mon entraînement et ma force en tant que skieur.
Et j'ai vu que tu as commencé à faire des courses en mode skyrunning. Et la première compétition internationale que tu as réalisée, c'est en 2018 en Italie, je crois.
2017. J'ai dit 2017, non, 2016. C'était ma première course à Limone sul Guarda. C'était ma première Coupe du Monde.
Donc tu as commencé par faire des compétitions avec des niveaux très élevés, international. Pourquoi tu as souhaité commencer si tôt à te frotter à cette concurrence?
Oui, oui. Tout d'abord, j'ai participé à quelques courses en Suède, hein, bien sûr, plus locales. J'ai réalisé que l'entraînement portait ses fruits et que je gagnais beaucoup de courses en Suède. Et bien sûr, je suis devenu curieux de voir ce que cela donnait au niveau international. Donc, je suis allé à Limone pour voir comment...
Quel était ton niveau ?
Oui, exactement. Et c'était vraiment, ouais, vraiment bien. Je pense que j'étais 15e à la Sky Race et 6e, je pense, au kilomètre vertical. Bah, c'était bien, mais ce n'était pas vraiment le maximum. Mais ça m'a beaucoup motivé à revenir et à faire mieux. Et puis l'année suivante, j'étais 5e à la Limone Sky Race et je pense 4e au KV. Donc j'ai eu une belle amélioration juste après la première course. Et puis ensuite, je suis allé à Zermatt. J'ai fait la course là-bas à Zermatt.
Marathon de Zermatt.
Ouais, exactement. La Sky Race là-bas. Et l'année suivante, bah, c'était la saison 2018 qui était, je suppose, ma grande... une de mes plus grandes années en skyrunning. Donc, voilà, je suppose que la raison pour laquelle je voulais faire de la compétition était un peu de voir si j'étais pas seulement bon en ski nordique, mais si l'entraînement que je faisais me donnait aussi les moyens, les compétences en trail running. Et puis aussi, à partir de ces premières courses, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment la communauté, l'atmosphère, et juste de courir, sortir dans les montagnes en liberté. Donc, c'était pas seulement le côté positif, du sport, mais c'était aussi toutes les autres choses, tout ce qu'il y a autour. Et puis, ouais, la communauté, cette impression de courir sur des sentiers, tout ça, c'était complètement nouveau et libérateur pour moi, d'une certaine façon. Donc, je ne suis pas seulement devenu un grand fan de l'entraînement, mais aussi de tout le package, de tout ce qui allait autour. Et je pense que c'est devenu assez clair pour moi en 2018 et puis 2019 que c'était le sport que je voulais vraiment pratiquer à long terme et poursuivre dans le futur.
Tu as répondu par anticipation à ma prochaine question, mais quelle différence y a-t-il entre le trail running et le ski de fond? Je sais que c'est une question difficile, mais si tu avais une chose à ressortir des différences entre ces deux sports, ça serait laquelle?
Liberté, d'une certaine manière. Comme si vous étiez... le ski nordique, c'est bien sûr l'environnement, la communauté, le sport en lui-même, les courses, les règles des courses. Tout ça, c'est complètement différent de l'aspect juste des courses. Mais en général, le mouvement, le sport, avec le ski nordique, vous avez besoin d'une paire de skis, d'une paire de bâtons, vous avez besoin, vous devez être bon en fartage. Et quand vous sortez, vous pouvez aller que sur ce chemin que le dameur de piste a fait pour vous. Il n'y a qu'une boucle de 5 km et vous ne pouvez vraiment pas sortir de là parce que les skis sont terribles pour faire quoi que ce soit d'autre. Mais ensuite, vous avez ce sport complètement simple et magnifique qu'est la course à pied où vous avez juste besoin d'une paire de chaussures et de sortir courir où vous voulez, à peu près. Vous pouvez monter dans les montagnes, vous ne pouvez pas vraiment faire ça avec le ski nordique. Vous pouvez aller sur les routes, vous pouvez aller sur des chemins, il n'y a presque aucune limite où vous pouvez aller. Donc, c'est ça en fait. Je ressens cette liberté dans ma vie quand je peux courir parce que je peux le faire partout. Et c'était genre ma première raison pour laquelle j'aime tant ça, je pense.
Et comment tu as géré à un moment donné où je pense que tu as dû faire la bascule entre les deux sports? Est-ce que c'est la sensation que tu as eue à ce moment-là?
Oui, un peu. Mais cela est venu assez naturellement après, en fait. Durant la saison 2022, quand je n'ai pas réussi à me qualifier pour les Jeux Olympiques et quand j'ai également eu d'autres problèmes pendant l'hiver, j'ai eu par exemple des problèmes avec mes pieds. Ils étaient toujours vraiment, vraiment très froids pour une raison que j'ignore, comme si je perdais toute sensibilité. Mais il y avait plusieurs autres raisons aussi qui faisaient que... Bon. Le ski nordique, faire la course n'était plus aussi amusant. Et le sport en lui-même aussi changeait dans une direction qui ne me plaisait pas non plus. Les distances devenaient plus courtes, les parcours étaient plus plats, je sais pas. Et j'ai fait genre tellement de courses de ski nordique dans ma carrière et j'ai vu le sport changer, j'ai été dans l'équipe nationale et tout ça, donc j'ai eu l'impression... j'ai fait le tour, exactement. J'ai fait partie de cette communauté et ainsi de suite. Et puis, quand cela est arrivé, je venais de signer avec l'équipe TRX l'année d'avant et soudainement, je pouvais vivre de mon sport. Et l'avoir comme profession. Et puis, d'une certaine manière, le ski nordique est devenu mon hobby à côté, parce que soudainement, j'étais payé pour être un coureur de trail professionnel. Et ça a rendu mon choix encore plus simple, comme si je n'avais même pas à y réfléchir. Pas tant que ça. Le moment était venu. À ce moment-là, c'était ce que je voulais faire et ça ne m'a pas rendu triste. J'étais pas frustré d'avoir genre poussé plus loin, trop loin, ou d'avoir essayé une année de plus, ou que ce soit de ce genre. J'avais l'impression que, de mon côté, le côté compétitif du ski nordique s'était terminé. Et que cette nouvelle vie, en tant que coureur de trail professionnel, et faire tout mon entraînement pour devenir aussi bon que possible dans ce domaine, était soudainement ma grande ambition et ma priorité. J'étais vraiment reconnaissant pour cela, et je me suis retrouvé dans une position où je pouvais faire que ça, où je pouvais faire de mon hobby un métier, et c'était juste fantastique.
Les étoiles s'alignent. Alors, on va parler d'un sujet qui est assez important ici en France. On voit certains des meilleurs trail runners, ultra-trailers, faire beaucoup d'entraînement en ski de rando. Est-ce que tu penses que c'est une arme, c'est un plus pour un trailer, ultra-trailer élite d'avoir un passif en ski de fond ou en ski de rando?
Ça peut, effectivement. Je pense qu'il y a comme deux sports qui attirent le même type d'athlète, bah, je suppose. Donc, c'est peut-être pas si étrange que les trailers fassent beaucoup de ski ou que les skieurs beaucoup de trail, parce que cela attire le même type de personnes. Mais il y a définitivement des coureurs qui ne skient pas et qui s'en sortent vraiment, vraiment très bien. Donc, c'est pas comme si c'était la recette parfaite pour devenir un excellent trailer. Mais je pense qui a des avantages, surtout quand il s'agit, comme par exemple, des effets d'entraînement neuromusculaire que l'on peut obtenir du ski, et aussi le fait de ne pas avoir cet impact tout le temps, toute l'année. Que vous soyez pendant une période, pendant l'hiver, pour récupérer, faire récupérer les muscles de cet impact, en même temps, vous pouvez avoir beaucoup de volume. Donc, en même temps, vous perdez un peu ce mouvement de course qui est très spécifique, un peu de l'économie de course qui est si importante avec la course que vous devez vraiment pratiquer. Donc ça a été un défi intéressant. C'est quelque chose que j'explore cette année pour essayer d'intégrer un petit peu plus de course, surtout comme des séances de vitesse pendant l'hiver, pour voir si je peux...
Pour ne pas perdre des compétences comme la vitesse notamment.
Oui, exactement. Pour l'instant, je me sens que c'est quelque chose que je dois aussi améliorer. Et quelque chose, je ne veux pas attendre le printemps pour essayer de l'améliorer. Parce que, alors la saison des courses commence et je dois récupérer de ces mêmes courses, mais je dois aussi me préparer pour les courses d'après. Donc mon idée pour cet hiver était de faire encore beaucoup de ski. Quelques séances importantes pour obtenir facilement du dénivelé, comme sur la neige, et juste monter avec les skis et redescendre. Et remonter à nouveau et faire pas mal de D+. Mais ensuite, faire l'entraînement spécifique de la course à pied sur une surface plutôt plate. Et travailler ma vitesse et ma foulée. Et faire des entraînements très spécifiques pour améliorer ça. Avant, la course, c'était un peu quand le temps était mauvais, qu'on ne pouvait pas skier, ou c'était un peu des courses de récupération. C'est juste pour bouger les jambes. Maintenant, cet hiver, j'ai senti que, OK, pour la prochaine saison, il faut que je m'améliore. Donc, les choses comme ma foulée ou l'économie, donc j'ai senti que je ne pouvais pas attendre et je n'ai vraiment pas attendu le printemps. J'ai besoin de travailler dessus pendant l'hiver. Mais
c'est un peu une période hybride, en fait.
Ouais, je fais pas genre de très longue distance. J'essaie plus de trouver l'équilibre au niveau de l'entraînement croisé. Je dirais en même temps, c'est peut-être 60 à 70% de ski en ce moment et le reste, c'est de la course. Je cours entre 70 et 100 km par semaine avec une séance d'intervalle et une sortie longue. Donc pas... énorme en termes de quantité, mais c'est juste assez pour avoir l'impression que je cours toujours. Et c'est toujours une partie de l'entraînement et pas juste un peu à côté.
Ouais, c'est assez logique. Ouais. Hein. Et on disait tout à l'heure que tu avais commencé la compétition avec le skyrunning, qui sont des courses courtes et techniques, on peut dire ça, hein, clairement. Qu'est-ce qui t'a amené à allonger les distances, notamment lors de la Transvulcania en 2019?
C'était par curiosité. Je pense que pour moi, la première Sky Race que j'ai faite à Limón, c'était 24 km. Pour moi, cela semblait super long. 50 km en ski nordique, qui est la plus longue distance que nous faisions, ça dure environ 2 heures. Et la Sky Race de Limón, ça dure 3 heures. Donc c'était aussi un grand pas pour moi. J'étais vraiment, vraiment épuisé après. Mais ensuite, je voulais essayer de faire des distances un peu plus longues et voir ce qui se passe avec le corps et l'esprit. Donc je me souviens, le premier ultra que j'ai fait était, j'appelle ultra, je sais pas, mais c'était plus long qu'un marathon. C'était la Matterhorn Ultrax à Zermatt. Je pense que c'était 49 km et ça, c'était vraiment, vraiment long, quoi. Et j'étais tellement mais détruit après ça. Puis l'année d'après, j'ai fait le trophée Okima, qui est plus long en termes de temps, mais pas tant en termes de distance. Mais j'ai pu expérimenter ce que c'était que de courir pendant plus de 6 heures. C'était un combat à la fois mental et physique. Et c'est ça qui m'a vraiment attiré, je pense. Et la Transvulcania, c'est devenu cette course que je pense, je suivais Ida Nilsson, bien entendu, qui avait remporté la course 3 années de suite, et est devenue genre cette énorme course sur mon radar que je voulais faire au moins une fois. Et j'ai décidé de la faire en 2019. J'ai eu une expérience différente, comme j'ai ressenti à la fois. J'avais l'impression que je ne pourrais plus jamais faire ça. Je me souviens être parti un peu fort. Je menais depuis le départ quasiment. Comme je faisais que des courses plus courtes, je pensais que le rythme était vraiment, vraiment lent. Donc je suis parti facile. Et je me suis dit, c'est facile. Et je devais avoir un écart genre de 8 minutes sur Thibaut Garivier. Et puis soudainement, je me suis senti ennuyé après 40 km. Et là, je me suis dit, non, c'est vraiment nul. Il faut juste que je finisse. Ça craint et je ne ferai plus jamais ça. Donc j'ai perdu beaucoup, beaucoup d'énergie. Et puis ensuite, mon problème, mon diable de course est revenu quand j'ai vu que Thibaut et Dimitri me rattrapaient. J'ai pu les suivre encore pendant quelques kilomètres et puis il y a eu un très beau combat. Et puis j'ai chuté dans la dernière descente, mais je ne les ai pas perdus de vue. Mais bon, j'ai quand même fini troisième. C'était une énorme course pour moi et l'un des meilleurs résultats que j'ai jamais fait. C'est quelque chose dont je suis vraiment très fier. Mais je pense que la réflexion après coup et je referai plus jamais ça. Mais comme la plupart des gens qui essaient l'ultra, vous changez vite d'avis.
Et le jour suivant, c'est bon, c'est OK.
vous changez effectivement d'avis quelques heures après et c'est du genre, vous vous inscrivez tout de suite pour un nouvel ultra. Et donc, c'était une expérience très cool. Et puis, mon attention a commencé à se porter sur des courses plus autour du 100 km et peut-être même éventuellement autour des 100 miles, l'UTMB ou une course de ce genre que je cherchais pour un futur un peu plus éloigné.
Qu'est-ce que tu as appris avec ce premier essai à la Transvulcania? Quelles sont les leçons que tu as apprises?
J'ai appris à ne pas gaspiller trop d'énergie dès le début, à la fois physiquement et mentalement, bien sûr. J'étais genre en mode course dès le départ et ça m'a vite épuisé.
En mode de ski de fond.
Exactement. J'étais genre, je cours pour la position dès le départ. Et et reste concentré. Il faut être concentré en ultra, mais il faut aussi savoir quand l'esprit peut être un peu moins focus et juste vagabonder tout en faisant les choses importantes comme la nutrition, en prenant chaque pas l'un après l'autre correctement. On peut pas être sur le qui-vive tout le temps. Donc apprendre à économiser son énergie, à bien boire, à manger beaucoup, bien sûr. Et j'ai appris que j'avais du potentiel, je pense, et que c'était quelque chose que je pouvais apprécier et quelque chose que je voulais essayer encore plus. Donc c'était pas seulement genre mauvais ou des leçons que je voulais améliorer pour l'année suivante, mais aussi j'ai trouvé des forces en tant que coureur ou ultra runner pendant cette course que j'ai pu garder avec moi.
Et ton premier 5 km a été la CCC, exactement, en 2022. Le premier 5 km, tu es définitivement entré dans une autre dimension avec cette course. Sous les 10 heures, record de la course, première chose, pourquoi tu voulais courir cette course ?
Ah oui, la CCC était l'une des courses où on se dit ça aurait pas pu être mieux que ça. C'était probablement la meilleure course de toute ma carrière qu'on regarde en ski ou en trail. Comme l'un de ces jours où on se dit je n'aurais pas pu faire beaucoup mieux de toute façon. Et je pense que l'OCC spécifiquement était sur mon radar depuis 2019, quand j'étais allé pour la première fois à Chamonix pendant la semaine de l'UTMB pour voir les différentes courses. Et je pensais que l'OCC ressemblait vraiment à une très belle course, mais pas si différente de ce que j'avais déjà fait. Elle est plus courte. Elle est rapide et c'était toujours quelque chose que je voulais vraiment faire.
Still something I really wanted to do, of course, and I did it in 2021.
Je l'ai faite en 2021. C'était aussi l'une de mes meilleures courses. Je pense que c'était un peu un retour pour moi là-bas et un gros coup de confiance dans ma carrière, un gros coup de boost. J'étais troisième entre John Alban et Robbie Simpson, donc c'était une énorme course pour moi. Mais une fois que je l'ai terminé, je me suis immédiatement dit non, c'est la CCC que je veux faire. Parce que j'avais regardé la course de la CCC en 2009 et j'ai pensé que c'était une distance entre... C'était toujours rapide, mais encore une course d'endurance, d'ultra, plus longue. Pas comme l'UTMB où, tu vois, même si... Les leaders, ils sont en mode longue randonnée. C'est presque une course de randonnée et ça semblait un peu trop lent pour moi. Mais la CCC, c'était une course rapide, d'une certaine manière, sur une durée un peu plus longue. Donc c'était un objectif précoce pour moi depuis 2019, qu'un jour, je voudrais faire la CCC. Après avoir fait l'OCC et senti que c'était à peu près la meilleure performance que je pouvais faire sur ce parcours, sur ce terrain, pour ce jour-là, je me sentais extrêmement motivé à l'idée de revenir et de faire l'OCC. Donc je me disais non, la prochaine étape, c'est la CCC et je vais essayer un 100 km. Avant ça, j'avais fait les Templiers, qui étaient... 80 km, donc c'était la course la plus longue que j'avais faite jusqu'à présent, et je sentais que c'était juste un petit peu plus court que la CCC, mais une distance que je pouvais bien gérer et que j'aimais. Et aussi, j'ai senti que cette course, c'était ce sur quoi je devais m'améliorer et travailler en vue justement de la CCC. Donc le chemin vers la CCC était tout tracé. L'un des entraînements les plus focalisés, les plus focus et spécifiques que j'ai jamais fait pour quoi que ce soit. Et le résultat, on était bien meilleur que ce que j'aurais pu imaginer. je suppose.
Was much better than I could ever had imagined, I guess.
En parlant de ce voyage vers la CCC, cet entraînement, quel plan, quel entraînement as-tu planifié, as-tu mis dans le calendrier pour atteindre ce but? Et quelle différence y a-t-il entre la préparation pour la CCC et pour une course plus courte, par exemple?
Oui, alors je dirais qu'il y avait quelques composants clés. La première chose, c'était la vitesse de montée et l'endurance en montée sur lesquelles j'ai travaillé pendant de nombreuses années. Mais pour moi, c'était vraiment de maîtriser cette vitesse de montée. Et de trouver un bon rythme. C'était ma première course où j'avais jamais utilisé des bâtons aussi. Donc il s'agissait vraiment de peaufiner et de trouver le rythme en montée que je me sentais de pouvoir tenir de manière vraiment efficace.
Je pense que tu sais comment les utiliser, non?
Je pense que c'est ce que j'ai ressenti assez tôt. J'avais un petit avantage en sachant comment utiliser les bâtons et aussi comment les utiliser efficacement. Utiliser correctement le haut de mon corps et vraiment tirer parti des bâtons. Donc c'était quelque chose que j'ai affiné et j'ai trouvé ma manière de les utiliser. Et j'ai entendu dire que oui, on peut me voir de loin quand je marche avec les bâtons parce que je marche comme si je faisais du ski nordique, selon certains. Mais c'est ma façon et j'utilise beaucoup le haut de mon corps dans mes randonnées. Donc j'ai affiné cela, trouvant la vitesse que je sentais pouvoir tenir pendant une période plus longue. Et pour l'autre partie, c'était la descente et la course sur le plat. Et c'est quelque chose que j'ai réalisé pour ma première fois pendant l'OCC. Je pense que quand j'ai couru avec Jonathan Albon pour la première fois cette année-là, et j'ai vu à quel point il était incroyablement bon en descente et sur le plat. Il est probablement le meilleur du monde en descente. Et le voir sur certaines des descentes comme Trient vers Valorcine. Où il pouvait juste me prendre 2 minutes en si peu de temps. Et puis je l'ai aussi affronté à la Maxi Race à Annecy en 2022, où je pouvais prendre une avance de 2 minutes sur lui en montée, mais il la rattrapait immédiatement en descente. Donc je me disais, ok, si je savais qu'il courait la CCC, donc je savais que si je voulais le battre, je devais travailler sur mes descentes. Donc c'est quelque chose sur lequel j'ai également travaillé spécifiquement pour habituer mes jambes à courir en descente pendant longtemps et à grande vitesse. Donc mettre en place des séances de vitesse en descente et aussi pratiquer de la technique, puis des choses comme ça. Et il y avait aussi un peu d'implication en termes d'équipement où avant la CCC, je testais les nouvelles chaussures TRX pour la première fois. Testing the new Terex shoes for the first time, and they also gave me great support to be. Elles m'ont aussi donné beaucoup de soutien pour pouvoir pousser un peu plus fort en descente. Donc quand je suis arrivé à la CCC, finalement. J'ai senti pendant cette première descente vers le refuge Berton que, ok, je m'étais bien entraîné dans la descente. Je peux facilement suivre et je m'étais bien entraîné pour ça. Puis il y avait la partie de la course sur le plat où j'ai finalement pas fait beaucoup de travail de vitesse. J'ai fait un peu de travail sur piste ou des choses comme ça, mais j'ai vraiment plus affiné que véritablement travaillé la partie sur le plat. Entre la folie et Champey, il fallait que je puisse maintenir un rythme autour de 4-10, 15-20, parce que c'est un rythme où je suis très à l'aise, facile à courir, et j'aurais pas dû courir plus lentement. Je devais pas courir plus vite non plus parce que Je sais que au-delà de cette vitesse, ça pèserait sur mes jambes. Donc, c'était et John, je savais que John était un des meilleurs sur cette partie. Mais tant que je pouvais maîtriser ce rythme, alors il devrait vraiment pousser très fort pour me rattraper sur cette partie ici. Et ça serait peut-être un peu trop dur à la fin sur 100 km. Et puis, bien sûr, c'était la troisième et la plus importante partie qui était la préparation générale pour la CCC. J'ai vécu à Chamonix de mi-mai jusqu'à la semaine de l'UTMB. Je connaissais chaque rocher, chaque partie du parcours.
Knew every part of the course and especially from
surtout de Champais à l'arrivée à Chamonix où j'ai fait plusieurs entraînements spécifiques. Je savais exactement le temps qu'il fallait de cette montée jusqu'à Valorcine, jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc, ouais, j'étais chez moi, sur mes sentiers. Je savais où se situait chaque ruisseau. Et enfin, la dernière partie de la préparation, c'était la nutrition. J'ai travaillé très étroitement avec Mortine et je savais ce que je devais manger et boire, des choses comme ça. Donc, c'était vraiment une préparation très agréable. Voilà. Et bien sûr, la course était vraiment géniale. Je suis vraiment content du voyage vers la course.
Est-ce que tu penses que c'était comme une obsession ou que c'était ça faisait partie du job?
Pour moi, c'était une partie du travail et j'ai vraiment adoré ça. C'était j'ai fait aucun compromis ou eu l'impression de manquer de quelque chose. Plus l'impression que je faisais ce qui me passionnait et ce que je voulais vraiment faire. Donc c'était un énorme plaisir.
So, it was a great pleasure.
Et puis rester à Chamonix pendant 6 mois, c'est, on ne peut pas se plaindre.
Can't complain.
Ouais, tout à fait, je suis d'accord. Je ne sais pas si c'est possible pour toi de parler de ça, mais j'ai entendu que tu as travaillé avec Joseph Mestrallet, qui est un sport scientiste. Et apparemment, tu as travaillé avec lui pour régler le rythme de ta course. Est-ce que c'est exact? Tu as travaillé avec lui sur la CCC?
Oui, exactement. Donc, je l'ai rencontré à Chamonix pendant... je pense que j'étais parti faire une sortie et puis il est tombé sur moi et nous avons un peu discuté. Puis discuté davantage pendant l'été. Et puis, il m'a parlé de ses recherches, de son travail et on a parlé de la CCC. Et pour être honnête, je pense que j'ai fait un peu mieux que ses prédictions en termes de rythme. Je pense qu'il avait prédit que si je faisais une très bonne course, je serais en 8e position et ça aurait été vraiment bien. Donc je pense que nous avons affiné un petit peu l'algorithme pour la Transvulcania quelques mois plus tard et ça a vraiment bien fonctionné là-bas. Donc c'était vraiment intéressant et amusant de travailler avec lui et j'ai appris beaucoup de choses avec le rythme et quand utiliser les bâtons, où c'est plus efficace et des choses comme ça. Donc c'était une excellente expérience, un excellent moment d'apprentissage de travailler avec lui, c'est sûr.
Et donc qu'est-ce qu'elle a changé cette course pour toi dans ta carrière?
Alors, je pense que tout d'abord, juste après avoir fini, je me disais « Ah mince, maintenant, chaque course va sembler si difficile parce que la CCC s'est tellement bien passée. » J'ai réalisé que ce serait incroyable si j'avais de nouveau des sensations comme celle-ci. Liger a été une très belle course et j'ai eu de superbes expériences en course depuis, mais j'ai réalisé que ce sera difficile d'égaler celle-ci. J'ai encore beaucoup de courses à faire et je pense qu'une performance comme celle-ci est encore possible. Je l'ai encore dans les jambes. J'ai encore de nombreuses années devant moi, mais c'était la première chose. La prochaine course ne sera probablement pas aussi bien. La Transvulcan Canyon, c'est pas aussi bien passé, mais j'avais quand même bien performé. Et bien sûr, après cela, je suis devenu l'un des favoris pour chaque course à laquelle je me suis aligné. Donc, ça, c'est sûr, ça a changé. Mais c'est aussi une super opportunité ou quelque chose pour lequel j'ai travaillé dur. Donc, j'ai apprécié. Dire que c'est une partie du jeu de devenir un favori. Si tu as une course, l'une des plus grandes courses du monde, j'ai essayé de le prendre comme une opportunité, de l'embrasser et de le prendre comme une force. Donc, bien sûr, tu peux avoir plein d'autres opportunités de courir autour du monde et plein de demandes, mais je me suis pas pris la tête de toute manière. J'ai essayé de rester concentré sur ce qu'il fallait faire à l'avenir et de continuer à apprécier le travail pour continuer à progresser et ne pas rester sur les succès passés.
I didn't let it go to my head in any way and to stay focused on what to do in the future and still enjoy the work and not live out of previous successes.
Est-ce que tu peux dire que c'est définitivement le plus beau moment de travail de ta carrière jusqu'à présent?
Yes. Yeah, it was.
Oh oui.
I would say that CCC.
Ouais, je dirais que la CCC et le 50 km de Holmenkollen, si je devais choisir deux courses, ce sont les moments les plus spéciaux pour moi dans ma carrière. Absolument.
Absolutely.
Donc, on va parler de cette année, 2023. Tu as décidé de t'inscrire et de participer à l'UTMB 2023. Pourquoi est-ce que tu as décidé de participer à l'UTMB cette année, ton premier 100 miles? Et comment te sentais-tu avant la course?
J'ai décidé de participer à l'UTMB juste après la CCC. Comme je te dis, je sentais que maintenant que j'avais fait cette course, je ne pouvais pas vraiment faire mieux. Donc, j'avais besoin d'un nouveau challenge et l'UTMB semblait être l'étape suivante pour moi. Et bien sûr, ma curiosité de faire un 100 miles et une vraie longue course d'ultra pendant la nuit, de faire sur un parcours naturel autour du Mont Blanc, ça avait du sens.
Natural course around the Mont Blanc would make sense, and I wanted.
Et je voulais que l'UTMB soit mon premier 100 miles. Donc j'ai pris cette décision assez tôt. J'étais super excité dès l'instant où j'ai décidé. Ok, maintenant je vais faire l'UTMB.
Now I'm gonna do UTMB. Like finally something like ah.
J'entendais qu'il n'y avait que des fous pour faire l'UTMB et voilà. Soudainement, je me suis rendu compte que, ok, moi aussi, je serai à l'UTMB. C'est juste énorme. Juste savoir qu'un jour, je serai sur la ligne de départ. Et c'était toujours dans le fond de ma tête tout au long de mon entraînement. Tout l'hiver. Donc cet hiver-là, j'ai déménagé à Romsdalen, sur la côte ouest de la Norvège, où je vis maintenant, pour m'entraîner avec Kilian et John, pour changer un peu d'environnement, mais aussi pour apprendre d'eux et pour m'entraîner un peu plus en ski alpinisme. Nous sommes devenus un très bon groupe d'entraînement ici et nous avons fait des entraînements plus longs et aussi des entraînements de nuit pour pratiquer l'entraînement pendant la nuit.
Type of training to practice the pushing during the night. So that was something I started to.
C'est quelque chose que j'ai commencé à intégrer tôt dans mes préparations. Du coup, quand je suis arrivé à l'UTMB, j'étais pas étranger à la compétition pendant la nuit et au déplacement là-bas de nuit. Ça semblait normal. Nous avons aussi pas mal d'obscurité ici. Donc, on est habitué à nous entraîner à la frontale. Ouais. En général, je pense que... Ce qui me traversait un peu l'esprit, c'était que oui, la CCC était un véritable succès et je ne voulais pas seulement vivre à la hauteur de cette année-là, je voulais aussi avoir une belle performance à l'UTMB. C'était la seule chose qui me préoccupait. Maintenant, avec du recul, ça a peut-être été un peu trop. Je mettais beaucoup trop l'accent uniquement sur l'UTMB et pas sur les courses de préparation.
Est-ce que tu étais dans un différent état d'esprit par rapport à la CCC ?
Oui, d'une certaine manière. Mais d'un autre côté, c'était aussi assez similaire parce que oui, la CCC a toujours été mon objectif principal pour 2022. Mais j'ai quand même réussi à profiter, à me pousser à mes limites et je sais pas. Comme on dit, embrasser chaque course qui est venue avant et ça pendant l'année 2022. Et je pense que j'étais peut-être un peu plus heureux, peut-être pendant tout ce process vers la CCC. Mais comparé à l'UTMB, alors il y avait un peu plus de pression sur mes épaules. Venir pour performer à cette course, que j'avais un peu plus Dieu sur moi avant chaque course. Et je voulais m'assurer d'être dans un bon état d'esprit pour l'UTMB. Je ne sais pas, l'UTMB était tout le temps dans ma tête, donc je n'étais pas présent. Je n'étais pas en train de profiter de ces moments que j'avais en allant vers l'UTMB. Je faisais encore tout le travail, tout ce que je voulais. Je pense aussi, avec du recul maintenant, un peu trop quand il s'agissait de l'entraînement. Je me poussais un petit peu trop. J'avais l'impression de devoir courir un peu plus tout le temps parce que voilà, je faisais un 100 miles et je prenais jamais assez de repos. Et puis, quand c'était le moment de la compétition, j'ai participé à un championnat du monde. Ça n'a pas été une très très bonne expérience. J'ai eu une petite blessure durant une chute au printemps. Donc, je n'étais pas vraiment prêt. Mais le marathon du Mont-Blanc s'est vraiment très très bien passé. C'était plus, comme je me disais, ok, c'était bien. Je suis dans le process, dans le bon process pour l'UTMB. J'étais pas très heureux du résultat, mais c'est un excellent résultat. C'était plus comme une confirmation que j'étais sur la bonne route vers l'UTMB. Et pareil pour Liger, c'est peut-être l'une de mes meilleures performances, mais j'en étais pas content. Pas content de cette performance. Pendant cette période, c'était plus comme, ok, je dois juste cocher une case de plus. Évaluer la course plutôt que de profiter du succès de chacune de ces courses. C'était plus comme une partie de l'entraînement vers l'UTMB. Et donc, quand je rentrais des courses, je m'entraînais encore plus parce que j'étais en plein entraînement et j'en ai fait trop en juillet. Nous sommes allés pour une reco sur la boucle autour du Mont Blanc avec Roofcraft et Jones et Martin et quelques autres néo-zélandais. On a fait la boucle pour vérifier le parcours et puis quelques autres entraînements aussi. Et c'était juste trop en fait. Mon genou était juste détruit après cette semaine-là. Ça a pris beaucoup de temps pour que je puisse récupérer. Et je sentais, c'était endolori au niveau des genoux. On a fait des bains de glace et c'était raide tout le temps. J'étais pas tranquille, j'étais pas serein, mais j'ai pas vraiment écouté mon corps, pas vraiment écouté la douleur. Je pense que j'avais peur de trop me reposer. Mais il fallait que je me repose, mais j'avais peur. Donc je n'arrêtais pas de courir. J'ai repris l'entraînement certainement trop tôt. J'ai continué avec les séances que j'avais prévues et la douleur au genou n'a disparu que deux semaines avant l'UTMB. Donc à ce moment-là, je me suis détendu. Je me sentais super bien, mieux, surtout en arrivant dans le week-end de l'UTMB en pleine forme et avec un bon état d'esprit. J'avais un bon pressentiment pour la course de manière générale. Je me sentais détendu. Alors il y avait beaucoup d'obligations et de choses à faire, bien sûr. Tu as été à l'UTMB, tu sais comment c'est toujours comme ça. Moi, de mon côté, j'avais hâte de courir. Je me sentais bien. J'avais prêt, j'étais détendu, j'avais bien récupéré. Et quand le départ a été donné, j'étais super excité et je le sentais. J'ai beaucoup apprécié le début de la course et de courir pendant la nuit. Et puis, je pensais que tous mes problèmes étaient résolus et que j'avais passé un cap. J'ai quitté Courmayeur à la troisième place avec Germain Grangier. Et puis, soudainement, au refuge Berton, mon genou à nouveau s'est mis à être douloureux, comme s'il y avait une grosse pile de glace dessus. Les genoux sont devenus très douloureux et je ne pouvais pas courir, je ne pouvais pas faire un pas de plus. Donc, j'ai pratiquement randonné du refuge Berton jusqu'à Champey.
Champelac.
Finalement, j'ai pas pu courir beaucoup. J'ai plutôt bien randonné en montée, mais à chaque fois que ça descendait, de Col Ferret jusqu'à la Foulie, c'était les kilomètres les plus douloureux de ma vie. Oh mon Dieu, quand j'y pense. Et je suis resté une heure à Champelac juste pour essayer de récupérer au niveau des jambes autant que c'était possible. Et j'ai essayé de sortir de la station pour courir quelques kilomètres. Et là, mes genoux ont juste flanché et c'était fini. J'étais assez déçu pendant un moment après parce que j'avais l'impression que c'était une fin abrupte de la saison et tout à coup je me disais oh non, j'ai juste rien fait cette saison, j'ai pas été à la hauteur de l'année précédente. Mais en y repensant, peut-être que la chose qui m'a le plus déçu, c'était de ne pas avoir fini la boucle de l'UTMB quand j'ai craqué mentalement et physiquement. D'un point de vue énergie, je me sentais de faire les 45 km qui restaient jusqu'à l'arrivée, mais mes jambes ne pouvaient plus. Donc, ouais. Maintenant, j'ai pas peur de la distance de 100 miles. C'est l'impression que c'est OK. C'est quelque chose que je voudrais refaire, mais ce jour-là, mes jambes n'étaient pas aussi bien préparées ou n'avaient pas assez récupéré, et c'était une leçon brutale. Mais j'ai beaucoup apprécié la course jusqu'à ce qu'elle ne soit plus que désagréable. Donc, je veux vraiment revenir à l'UTMB.
Qu'est-ce que tu as appris sur cette course, cette préparation? Qu'est-ce que tu as appris?
Oui, j'ai appris certaines choses sur l'entraînement. Cette année, par exemple, je vais essayer de rester un peu plus détendu pendant la course, pas faire autant que ce que j'ai fait l'été dernier, et faire un peu plus d'entraînement croisé, comme je l'avais fait l'année précédente, comme du ski à roulette, du vélo. Je pense que j'ai fini par faire un peu trop de distance en courant, donc c'est une chose à ajuster dans l'entraînement. Ensuite, il faut que je sois le plus consistant et concentré sur le volume pendant la préparation pour l'UTMB en juin, juillet et août, et être plus prudent pendant toute cette période, prudent à ne pas en faire trop. C'est vraiment mon grand apprentissage. J'ai aussi appris ce que j'ai bien fait, je pense, lors de l'UTMB. J'ai l'impression que mon alimentation a vraiment très bien fonctionné du début à la fin. Je pense que j'ai beaucoup appris, justement, du début à la fin de l'année, aussi sur le rythme, qui n'était pas si mal. Personne, de toute façon, n'aurait pu battre Jim Wemsley cette année. Il était juste intouchable. Et même si ça avait été mon meilleur jour, je n'aurais peut-être pas pu le battre. Je pense que j'étais, peut-être en termes de forme, dans l'un de mes meilleurs jours. J'ai pu rester dans la compétition jusqu'au centième kilomètre. Donc c'est plus une question de peaufiner l'entraînement ou la big picture, la vision générale de la fatigue avant la course et comment gérer ça pour être capable d'être frais sur ce type de course le jour de la course.
Est-ce que ça a été ta pire expérience en trail running, cet abandon à l'UTMB?
Oui, c'est sûr, c'était difficile. J'ai été déçu de moi-même, bien sûr.
Yeah, disappointed of myself, of course.
Beaucoup d'amis, de fans, de famille étaient là pour m'encourager et tout. Et ouais, c'était décevant de ne pas pouvoir finir au moins sur le parcours.
For sure, and I had so yeah, I was disappointed. For
ouais.
Sure,
j'étais déçu, mais j'ai eu beaucoup de courses difficiles dans ma carrière parce que j'ai beaucoup couru à la fois en ski nordique et en trail, mais je m'en suis remis assez rapidement.
I got over it pretty quickly, and when I was evaluating
et en évaluant la saison. Bah, il faut que je prenne que les bons côtés de l'UTMB. Donc, je dois regarder ce que j'ai vécu pendant la course et apprendre du process, ce que je dois faire mieux la prochaine fois. Je ne me suis pas tant penché sur ce que je dois encore améliorer pendant la course de l'UTMB, mais je pense que je l'avais assez bien cerné.
C'est assez positif, hein,
comme étant l'expérience que je voulais faire. C'est une expérience assez positive dans l'ensemble. Donc, c'était plutôt... Qu'est-ce que je dois faire différemment dans l'entraînement et dans les préparatifs de la course? C'est ce que je fais... quand j'ai regardé en arrière la saison et puis j'ai revu les autres courses un peu plus en détail comme l'Eiger et le Marathon du Mont-Blanc et j'ai pensé, ok, c'était de bonnes courses, c'était de grandes performances et je peux courir toujours plus vite. Donc, j'essaie d'être positif et de rester motivé et de réessayer de courir vite.
Race fast.
Great. Qu'est-ce que cette course, l'UTMB, la rend si particulière et si difficile à gérer? Est-ce que c'est la pression? Est-ce que c'est la compétitivité? Ou le format lui-même de la course, le format de la course?
It's, I guess you would say it's both. It's, all parts. It's,
on pourrait dire que c'est les deux. C'est un énorme privilège de juste être sur la ligne de départ. On ressent cette pression. C'est des milliers de personnes qui essayent juste d'avoir un ticket à la loterie pour cette course. Donc, le fait d'obtenir une place, c'est comme si on voulait bien faire les choses et montrer qu'on mérite cette place d'une certaine manière et pas la prendre pour acquise.
And not take it for granted. So it's that pressure, and you know.
C'est cette pression. Et puis on sait qu'il y a tellement de gens qui aimeraient être à notre place et aussi pouvoir être l'un des favoris de la course. C'était aussi comme être classé numéro 2 juste après avoir gagné la CCC. C'est pas tous les jours comme ça. J'ai vu ça comme un énorme privilège et une opportunité rare. Donc cela me rendait vraiment spécial. Puis c'est l'histoire de la course, de qui a gagné avant, de ceux qui gagneront probablement dans les années à venir. Et puis bien sûr, l'emplacement et l'histoire du Mont Blanc et de Chamonix, qui est le centre de l'alpinisme en Europe, et c'est la plus haute montagne des Alpes. Et on fait une boucle autour de cette belle montagne qui est en plein milieu de la nature, qui a du sens d'une certaine manière. Donc, elle a tout pour être une course qui mérite sa valeur et la grande réputation et la compétition.
The race is fantastic.
Donc, Avant tout, la course est fantastique et le fait que tant de gens veuillent la gagner la rend encore plus spéciale. Toute l'excitation et le battage médiatique avant la course rendent ça encore plus difficile. Voilà, ça rend les choses beaucoup plus tendues avant le départ de la course.
Est-ce que tu vas retourner sur l'UTMB l'année prochaine, en 2024?
Oui, c'est mon plan. J'ai toujours pas d'inscription officielle pour l'UTMB. Je suis inscrit pour la CCC parce que j'avais une place de la CCC en l'ayant gagnée. J'étais censé courir aussi la Kodiak 100 aux États-Unis cet automne, mais j'ai eu une fracture de la clavicule après un accident de vélo en septembre, donc je ne pouvais pas y aller. Je vais donc participer au Canyons Endurance Runs by UTMB fin avril pour obtenir mon entrée pour l'UTMB. Mais ouais, c'est donc mon plan et la façon dont j'aimerais courir là-bas.
Super, super. Ah bon, me tarde de voir ça. J'aimerais qu'on parle assez rapidement du rapide développement de notre discipline, juste de ces 3-4 dernières années, notamment après le Covid. Est-ce que tu peux parler de ce développement rapide, la présence des marques, etc.?
Yeah, it's been really interesting to.
Ça a été vraiment intéressant de suivre ça et d'une certaine manière d'en faire partie. Quand je suis entré dans le sport, ce que je suivais surtout, c'était le skyrunning, parce que c'est ce qui était important en 2016, 2017,
2018.
C'était là que Kylian courait et tant d'autres qui étaient excellents en trailrunning. C'est ce que j'ai commencé à suivre en tout cas. Et je pense qu'en général, il y avait un grand intérêt pour ce type de course.
In general, it was big interest in those kind of races. And it's then shift.
Puis l'attention s'est déplacée vers d'autres formats et d'autres séries de courses en 2018-2019. Par exemple, le Golden Trail Series qui est apparu, et puis les courses de format court comme les courses entre 20 km et le marathon qui ont attiré beaucoup plus d'athlètes vers ce type de course et de série. Certaines des courses faisaient toujours partie de la série de skyrunning comme Zegama, les Dolomites, Glencoe Sky en Écosse, et puis d'autres courses qui font partie des Golden Trail Series, qui ont été des Sky Race avant.
Or Sky, the one in Scotland, and yeah, many of these races that is in Golden Trail Series have been Sky Race, Sky Races before.
Mm-hmm. Even marathon. Même le marathon du Mont Blanc. Donc c'était un peu le début. Like il y avait plus d'accent sur le côté technique. Et puis, ça a évolué vers le trail running et les performances, un peu plus accessible à un public plus large. Parce que le sky running, c'est quand même très, très niche, très, très technique. Tu vas très haut en altitude, tu vas sur des courses très techniques et c'est vraiment pas pour tout le monde. Bref, le focus sur les courses plus courtes et qui sont maintenant un peu moins techniques, mais plus rapides, ça les rend plus attractives pour plus de coureurs et un peu partout dans le monde qui n'ont pas des sentiers très techniques près de chez eux. Je pense que c'est un développement assez bon pour cette niche du sport.
I think it's a pretty good and development of this niche of the sport. And
à l'époque, je ne suivais pas tant que ça les séries sur les ultras, donc je ne peux pas vraiment dire que si c'est important ou pas, mais évidemment l'UTMB, la Western State sont des grandes courses, tout comme le Grand Raid, le Mute, bien sûr, et puis la Transvulcania dans les catégories des ultras en dessous de 100 km.
And then, I guess, like
Je suppose que, comme bah, la série UTMB, ça a pris beaucoup de place dans la scène de l'ultra. Ça a pris. Ça apparaît comme étant l'un des points forts, bien sûr.
Very big spot in the highlights, of course, and.
Et c'est aussi très intéressant de voir comment plus de marques entrent dans ce sport et de plus en plus de grandes marques, bien sûr, comme Nike, The North Face, Terrex et maintenant Asics, et pour ne nommer que quelques-unes. Il n'y a plus que Salomon comme acteur principal. Donc ouais, c'est vraiment intéressant et c'est génial pour le sport et pour nous les athlètes. Je pense que ce sport a attiré beaucoup plus d'attention et s'est forgé une belle réputation parmi les grandes marques de l'outdoor.
A bigger reputation amongst the big outdoor brands.
Et qu'est-ce que tu penses de ce que certains considèrent comme l'hégémonie de l'UTMB? Est-ce que tu penses que c'est important d'avoir des séries internationales qui sont en parallèle de l'UTMB pour avoir un espèce de contre-pouvoir?
À mon avis, il y a bien sûr des choses à améliorer avec l'UTMB, et nous sommes dans une période formidable où je pense qu'il y a encore la possibilité de faire des changements et des améliorations, tant pour les élites que pour les amateurs et les coureurs plus loin encore dans le peloton.
Make improvements both for elite athletes as well as amateurs and runners further down in the fields. And
je ne dis pas que l'UTMB est parfait, loin de là, il reste beaucoup à faire, mais je pense, en tout cas de mon point de vue, que pour le sport et pour le développement des nouveaux athlètes, de jeunes athlètes, et pour l'intérêt que l'UTMB a su générer, c'est quelque chose de spécial ce qu'ils ont accompli.
New athletes or like younger athletes and for the interest that UTMB has done something special.
Et cela revient aussi à ce que j'ai dit auparavant sur l'emplacement en pleine nature de la course à Chamonix, le parcours, l'histoire, la culture autour du Mont Blanc et de Chamonix. C'est une course, je pense, qui ne peut pas être répliquée ou courue ailleurs.
Chamonix, it's like a race that I think can't be replicated or done anywhere else, just like.
Enfin, c'est comme le Tour de France, c'est peut pas être ce qu'il est dans un autre endroit.
C'est unique.
C'est juste unique. Ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'athlètes élites, c'est aider à l'améliorer et à rendre l'UTMB encore meilleur.
Improve it and to make it. Better and I am positive that
je suis convaincu que on est vraiment dans une période où on peut l'améliorer et je suis immensément fier et impressionné par la communauté du trail running qui s'exprime, qui est active, qui induit des changements. Contrairement au ski nordique ou à d'autres sports où on attend simplement, c'est tout ce qu'on a à faire.
Yeah, just waiting for what the sports are taking and we are, but it's a very active community.
C'est une communauté très active que le trail qui veut le meilleur pour ce sport. Pour moi, c'est formidable qu'il y ait cette course unique, cette série qui est si unique, qui bénéficie de beaucoup de financement, d'attention. Et où les meilleurs parmi les meilleurs veulent participer. Une course où gagner, être sur le podium ou dans le top 10 peut radicalement changer toute ta carrière. C'est une excellente opportunité qu'on a là. Et si ça se passe dans un endroit comme Chamonix, et bah, ça a encore plus de sens. C'est juste fantastique. Et puis, Jack, il y a tellement de courses locales dans le monde auxquelles tout le monde peut participer de toute façon. Je pense que c'est génial qu'on ait une course un peu folle. Il faut, apprécier ça. Moi, j'aime toujours participer à des petites courses locales, des courses courtes où on s'inscrit pour 15 euros. On court juste pour avoir un t-shirt et puis une bouteille d'eau à l'arrivée. Il n'y a pas de photographe. Voilà, c'est génial. C'est génial qu'il y ait des courses comme celle-ci aussi. Et je pense que nous, en tant qu'athlètes élites, on doit également participer aux petites courses pour rester connectés à la communauté. Ça fait aussi partie des racines de ce sport. Et je pense qu'il devrait être possible, à côté de ça, d'avoir cette semaine folle où nous nous sentons comme des vrais sportifs professionnels.
Et penses-tu, pour finir sur ça, penses-tu que ce soit possible qu'une autre course soit la course la plus compétitive du monde, ou est-ce que tu penses que l'UTMB c'est définitivement le sommet de l'ultra trail mondial?
I don't know. It's very interesting. When it comes to 100 miles,
je sais pas, c'est super intéressant en ce qui concerne les 100 miles et les 100 kilomètres.
I think it's hard to find.
Je pense que c'est difficile de trouver un endroit et une atmosphère aussi emblématique que l'UTMB. Mais je pense que pour l'OCC et pour ce format de distance plus courte, c'est plus varié et peut-être plus basé sur la saison. Peut-être que pour l'instant, Sirzenal est la plus grande et la plus compétitive.
Mais
ce serait intéressant de voir si d'autres courses peuvent aussi concourir dans dans cet espace des 100 miles, 100 kilomètres. Mais je suis aussi ouvert à ce qu'il y ait des opportunités pour un défi sur les longues distances, pour des courses qui peuvent offrir un excellent divertissement, une retransmission en direct, des prix importants, des opportunités. Je pense qu'il est important de dire aussi que le trail running n'est pas seulement pour les élites, mais aussi pour la masse de coureurs. Et ce n'est pas amusant pour nous, les élites, d'être seuls sur une ligne de départ. C'est beaucoup plus cool, plus marrant d'être sur une ligne de départ avec des centaines, des milliers de personnes. Bien sûr.
Il
doit y avoir un parcours, un lieu où beaucoup de gens peuvent se rendre. À cet égard, Chamonix fait du sens. C'est peut-être une autre course qui émergera à l'avenir, qui possédera également une bonne situation, une très bonne organisation, une très bonne communication, qui montre ce qu'est ce sport. Mais c'est une période intéressante à voir.
Ouais, on est à la croisée des chemins aujourd'hui. Pour finir cet épisode avec un peu de rigolade, c'était chouette, mais j'aimerais finir par un peu de rigolade. On a parlé dans un des derniers épisodes avec Robin Schmidt qui fait les genoux dans GIF. Tu connais les genoux dans GIF? Il est vraiment obsédé par le geste technique de l'entorse de cheville. Et il a dit que lorsque tu as participé à la CCC 2022, tu as réalisé un vrai chef-d'œuvre de ce point de vue-là. J'aimerais que tu nous fasses un petit retour d'expérience sur cette entorse. Et apparemment, on nous a dit que tu n'avais même pas eu de douleur, tu n'avais même pas senti cette entorse. Est-ce que c'est vrai ?
Donc oui, pour ceux qui ne savent pas, il y a cette photo de ma cheville à 90 degrés pendant la CCC. Je me souviens pas.
Comment c'est possible?
C'est possible. C'est assez incroyable. Je me souviens de m'être foulé la cheville un peu avant Valorcine, mais c'était la cheville droite, je crois.
Ouais. Tu es très souple, hein?
Je me suis déchiré tellement les ligaments tellement de fois que peut-être que ne peuvent plus être étirés. C'était assez drôle que ça a été l'élément qui, bien sûr, ma course et le temps que j'ai pu réaliser et attirer si peu d'attention. Mais je pense que ce qui a vraiment retenu l'attention de la course, c'était mon entorse de cheville, ce qui est un peu ironique, je suppose.
Mais ne t'inquiète pas, on ne se souviendra pas que de cette entorse, mais également du temps que tu as mis dans la course.
Mais ouais, je comprends pourquoi il a aimé mettre cette photo dans les genoux dans le GIF.
Donc tu confirmes que tu ne te rappelles pas de ça, donc c'est assez impressionnant. Peter, c'était super. Si tu veux, je te laisse partager quelque chose de spécial pour terminer la conversation.
Non, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Ça a été super de pouvoir parler avec toi. Je passerai du temps à Chamonix à partir du 20 mai jusqu'en juillet. Et je vais essayer de battre le record de montée et de descente du Mont Blanc. Donc voilà, si quelqu'un est dans la région à ce moment-là, passez faire un petit coucou. Si vous voulez faire un footing ou quoi que ce soit, juste contactez-moi. Mais sinon, c'était vraiment sympa de discuter avec toi.
Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux?
Vous pouvez me suivre sur Instagram et sur Strava. Je pense que si vous voulez voir comment je m'entraîne, je publie presque tout sur Strava. Donc oui, cherchez-moi sur Strava. Sinon, c'est ici que vous pouvez me trouver, Strava et Instagram.
C'était un super moment. C'était un vrai honneur de recevoir dans le podcast. Bonne année pour toi, bonne UTMB. Et merci énormément. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Peter. Et je dis bien Peter Engdahl, que je remercie énormément pour le temps qu'il m'avait accordé. Je remercie également du fond du cœur un ami, Hermano Gimicelli, qui a réalisé ce doublage avec beaucoup de qualité et beaucoup d'énergie et je te remercie vraiment pour ce geste ô combien infiniment aimable et réalisé avec autant de qualité. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try le podcast. Vous pouvez également me suivre à titre perso sur Facebook, LinkedIn, Instagram ou Strava à Nico Guilleneuf. Vous pouvez également, si vous souhaitez aider le LTP, vous rendre sur les plateformes Apple Podcast, Spotify, mettre 5 petites étoiles et un commentaire si cela vous chante. Et puis, si vous souhaitez également aider le LTP, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, à promouvoir la bonne parole. Et enfin, le sommet de l'aide au projet, c'est de devenir membre des soutiens participatifs de la communauté du Let's Try Podcast en vous rendant sur Patreon, patreon.com/ Let's Try le podcast. J'espère te retrouver pour un prochain numéro du Let's Try podcast et d'ici là, n'oublie pas, si tu penses que c'est impossible, fais-le pour te prouver que tu avais tort. Salut, salut.
Yeah. No, so yeah, I know that probably likes to put that picture up on the gift.